Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, Léorer Chayamim Tovim Vishanim Emim. Nous poursuivons notre étude, notre lecture approfondie du fabuleux livre rempli de lumière qui rayonne de clarté et d'intelligence, le fameux Zera Shimshon du grand maître, l'illustre Rabbeinu Shimshon Haim Nahmani, que sa mémoire et que de mémoire bénie et que son mérite nous accompagne. Nous sommes Parashat Hayesara au 8e Darouche. Que cette étude soit portée au bénéfice de tous ceux qui sont en attente d'une délivrance, de sortir de situations étriquées, difficiles, ceux qui espèrent trouver, fonder un foyer, trouver une épouse, trouver un époux, d'avoir des enfants, de guérir de maladies terribles et d'avoir une meilleure parnassa. Il est dit dans le verset, « Ve'avram, zaken, ba, bayamim. » Avram était zaken, vieux, ancien. « Ba, bayamim, avancé dans les jours. »« Va'adonai berach et Abraham bakol. » Akadosh Baruch Hu a béni Avraham en toutes choses. Alors à ce moment-là, il dit, « Va'yomer Avraham et la avdo zekan beto. » Avraham s'est adressé à son serviteur, l'ancien de sa maison, à Moshe el Bechol Asherlo, qui domine, qui gouverne, qui dirige tous ses biens. Simna yadecha taha derechi. Mets ta main sous ma hanche et je te prie de me jurer. Donc il s'agit ici de la mission que Avraham va confier à Eliezer de trouver une épouse et d'aller à la recherche d'une épouse pour Yitzhak. Le texte souligne qu'Eliezer détient le pouvoir sur les biens de son maître et qu'il est l'ancien, le gouvernant de sa maison, Zekan Beto. Moshe Bechol Asherlo. Nous dit, pose le Rav Zera Shimshon la question, quel est l'intérêt de toutes ces précisions? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter? Voilà que Eliezer n'en est pas moins qu'un esclave. Donc Avraham confie une mission à l'un de ses serviteurs, et le serviteur, quel qu'il soit, doit remplir la mission qui lui est qu'on lui donne en exécutant les choses telles que Avraham les fixe. Il n'a pas pour autant de pouvoir de décision. Il doit appliquer les consignes qu'il reçoit. Alors pourquoi avoir dit qu'il les écane béto? À ce sujet, nous pouvons dire que, en fait, les esclaves, Chachamim nous disent que les esclaves sont des gens, la caste des esclaves, c'est une caste à part. Les Eved Kenani, c'est une caste à part, ils ont des mœurs un peu dissolues. Ils sont pas fiables. Ils peuvent se laisser aller à toutes sortes de transgressions si l'occasion leur en est donnée. C'est pour cela que, d'ailleurs, que la Mishnah nous dit, la Gemara dans Brachot souligne que les femmes qui le souhaitent peuvent faire le zimoun seules, mais elles ne peuvent pas s'associer aux esclaves pour le faire, parce qu'on soupçonne donc qu'il y ait des familiarités et des risques. Alors c'est pour souligner donc la particularité d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, et ses grandes qualités morales, qu'il est souligné dans le verset, et qu'il était Zekan Beto. Il était l'ancien de la maison d'Avraham. Les sages iront au-delà. Chachamim vont aller au-delà de cela. Ils vont dire, ils vont le qualifier de Zaken. Zaken, définition la Gemara dans Kiddushin, elle dit, c'est quoi Zaken? C'est celui qui a acquis, et c'est Zaken, je sais qu'Ana Chochma, celui qui détient, qui a acquis et qui détient la connaissance. Et de quelle connaissance? De connaissance de la Torah. Il est installé dans le savoir, le pasouk dit. La Gemara, elle dit dans Yoma, Eliezer, Zaken, Veyoshev, Bishiva. Umlamet, Torah, le Aherim. C'est ainsi que la Gemara le définit. Eliezer, Zaken, Veyoshev, Bishiva, ya, Dole, Umashke, Mitorat, Rabo, le Aherim. C'est ce qui est marqué, Damesek Eliezer. Alors, si on dit ça, sur cette Gemara-là, il y a une véritable question. Comment, voilà que la halakha est, qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah aux esclaves. Comme ça, il pensait que le Rambam, dans Hilchot Avadim, au chapitre 8, halakha 18. Alors, comment Abraham, qui s'est appliqué à accomplir toute la Torah avant qu'elle ne soit donnée dans les moindres détails, a pu oublier cet interdit de transmettre le savoir à un esclave? Serait-il de la grandeur de Eliezer? Ça n'en reste pas moins un interdit. La Gemara, pour répondre à cela, nous allons faire un développement à partir d'une Gemara de Ktubot, à la page 28a. La Mishnah là-bas raconte, voilà, ce qu'un homme, il peut témoigner quand il est grand. On ne peut témoigner qu'un homme grand. Il peut témoigner de quelque chose qu'il a vu quand il était petit. Alors, parmi toute la liste des témoignages qui sont valides, il y a celui de l'adulte qui rapporte un fait auquel il a assisté quand il était enfant. Je me souviens du temps où, quand on était petit, cet homme-là quittait l'école pour aller se tremper au mikvé et après consommer de la trouma. Donc, quelqu'un qui dit ça, il a dit quoi? Il a dit que ce monsieur-là, c'est un Cohen. Il quittait l'école, il allait se tremper au mikvé pour manger la trouma. Donc ça veut dire, quand il était petit, c'est un Cohen qui mange la trouma. Donc on lui apprenait que pour manger la trouma, il fallait être tahor. Alors de cette affirmation, alors on peut décréter que cet homme-là peut être considéré comme Cohen. La Gemara s'interroge, est-ce que cela est suffisant? Est-ce que le témoignage de cette personne dans les faits qu'il raconte, est-ce que c'est suffisant? Cet enseignement, la Gemara dit, non, c'est bon. Pourquoi? Parce que cet enseignement va dans le sens que d'un enseignement attribué à Rabbi Yehoshua ben Lévi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est absolument illicite que le maître enseigne la Torah à son esclave. Parce que faut savoir que le Cohen qui a un esclave, l'esclave aussi mange de la trouma. Donc quand tu témoignes que cet enfant-là, quand il était petit, il allait au mikvé et il mangeait la trouma, est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il est Cohen? Peut-être qu'il était l'esclave d'un Cohen. Donc ici, on ajoute qu'il sortait de l'école. Donc comme il était à l'école, et donc vadaï que c'est sûr que c'était pas un esclave, parce que l'esclave, on n'a pas le droit de lui enseigner la Torah. Donc ici, dans le cas cité, il est certain que ce monsieur-là n'est pas un esclave puisqu'il fréquentait l'école. Alors maintenant, est-ce que ce raisonnement-là, cette preuve-là est irréfutable? N'est-il pas possible qu'un esclave étudie et sache la Torah? Voilà un enseignement transmis par les sages. S'il arrive que le maître nomme son esclave gérant de ses biens, apotropos, ou qu'il se permette de porter l'esclave, se permette de porter les tefilines devant son maître, ou qu'il monte à la Torah et qu'il lise un paragraphe de la paracha, est-ce que ces agissements signifient que l'esclave est affranchi et qu'à présent il faut le considérer comme un juif à part entière? La Gemara répond non, cela ne consiste en rien une garantie de son affranchissement. Il est fort possible que l'esclave agit de la sorte de sa propre initiative, pour le cas des tefilines ou le cas de la lecture de la Torah. Qu'avons-nous déduit de là? Rachid explique ce passage et dit, ce n'est pas parce qu'il lit la Torah que nous disons que sans aucun doute le maître l'a affranchi et que sinon il ne se serait pas permis d'agir comme un homme libre. Comment agit un homme libre? Il met les tefilines, il lit la Torah. Rachid ajoute, qu'en tout état de cause, nous apprenons de là qu'il y a des esclaves qui s'adonnent à l'étude de la Torah. Ça, c'est la Gemara avec l'explication de Rachid. Il ressort de cette déduction que fait Rachid, que le premier avis rapporté dans la Gemara qui affirme que cet homme, dans son enfance, fréquentait l'école et que cela constitue une réelle preuve qui n'est pas esclave, car son maître n'a pas le droit de lui enseigner la Torah. La raison pour laquelle le maître ne doit pas lui transmettre la Torah, c'est que l'esclave n'étudie pas lui-même. À cela, la Gemara objecte qu'il y a des cas où l'esclave étudie. Il y a des esclaves qui peuvent s'adonner à l'étude, qui aiment l'étude. Il est possible que quelqu'un, il a. Comment on trouve des esclaves? Le gars, il a été capturé lors d'une guerre. Et peut-être c'est un intellectuel. Alors maintenant, il est esclave. Mais dans sa jeunesse, il a fait des études, donc il aime étudier. Alors maintenant qu'il a été racheté par un juif, par exemple, alors il continue intellectuellement. Il est éduqué à étudier. S'il en est ainsi, pourquoi Rabbi Yehoshua ben Lévi se contente-t-il de dire que le maître ne doit pas lui enseigner la Torah? Il fallait dire qu'il est interdit à l'esclave d'étudier. Parce que l'esclave lui-même, il est soumis à certaines mitzvot, comme nous allons le voir. Un esclave qu'on achète de l'extérieur, en achetant l'esclave Kenaani, on est obligé de le faire la mila, de le tremper en mikvé, et l'esclave est soumis à certaines mitzvot, comme les femmes. Cette formulation n'est, alors la formulation, si j'avais dit que l'esclave il n'a pas le droit d'étudier, alors elle réduit, on ne peut pas déduire, la formulation réduit de la sorte, à l'avantage d'étendre l'interdit à d'autres. C'est pas seulement l'esclave, c'est pas seulement le maître qui n'a pas le droit de lui enseigner, mais aussi d'autres n'ont pas le droit d'enseigner à quelqu'un qui est esclave. Et aucun enseignant digne de ce nom ne commettrait l'impair de s'associer à la faute, même si l'esclave il veut apprendre. Rabbi Yehoshua ben Lévi aurait dû dire, exprimer son enseignement dans un énoncé succinct et concis, qui ne laisse aucune place au doute. Il dit, il est interdit d'enseigner à l'esclave. De sorte que s'il a choisi de préciser l'interdit uniquement du maître, c'est pour en restreindre l'application au maître uniquement. Tu en déduiras que l'esclave qui désire s'adonner à l'étude peut le faire, en toute quiétude, il n'y a pas de problème. Si l'on est ainsi, ce que nous avons appris du deuxième enseignement est en fait inclus dans le premier, dans celui de Rabbi Yehoshua ben Lévi. Alors que signifie cette formule employée par la Gemara? Cela confirme la transmission de Rabbi Yehoshua ben Lévi. Nous sommes dans l'obligation de dire que quand la Gemara s'étonne et s'interroge, est-ce une preuve suffisante, le fait de fréquenter l'école? Nous avons vu qu'il peut se trouver des esclaves qui étudient. La raison avancée ici est que pratiquement cette possibilité n'existe qu'en théorie, car la réalité du quotidien de l'esclave, c'est de travailler. Donc il travaille quotidiennement, continuellement. Comment peut-il trouver le temps d'étudier? Il faut qu'il a le jour du maître. Ol, adonon alav. Il doit œuvrer et produire continuellement. Devrait-on alors soupçonner qu'il a obtenu une dispense et un aménagement de son temps de travail? Est-ce que le maître lui allège la besogne pour lui permettre de s'instruire? Certainement pas. Le maître ne peut ni lui enseigner directement, ni lui permettre d'étudier. C'est indirect. Il détourne l'interdit. Il est à noter que dans ce cas, il est admis qu'avant d'entrer au service de ce maître, l'esclave était totalement ignorant. Il n'avait aucune connaissance de ce que est l'alphabet, la lecture, etc. Ainsi, la Gemara objecte que voilà un cas où l'esclave a lu la Torah en public, ce qui signifie qu'il s'est adonné à l'étude, comme le dit Rashi. Comment a-t-il pu y parvenir, si ce n'est que le maître lui a permis? Et la Gemara de répondre qu'il s'agit du cas où l'esclave poursuit ses études de lui-même, et qu'avant d'être esclave, il était érudit. Il était attiré par le savoir. Nous pouvons à présent revenir à notre paracha et au cas d'Eliezer. Voilà que lorsqu'Abraham fait jurer Eliezer, il lui dit, je te fais jurer par l'Éternel, Dieu des cieux et de la terre, que tu n'iras pas ailleurs que, et tu appliqueras exactement, tu trouveras une femme correcte pour mon fils. Et donc il lui dit, il lui fait jurer par le Dieu du ciel et de la terre. Il lui garde cependant plus loin, quand Eliezer il a un doute, il lui dit, il lui garantit que l'aide d'Hachem l'accompagnera. Il lui dit, l'Éternel, Dieu des cieux, qui m'a pris de la maison de mon père, alors où Ishar Malachol et Fanera, lui enverra son aide et son ange pour t'accompagner. Ici, il ne rajoute pas le Seigneur du, il dit pas Elohe Hashamayim Baharet, il dit Elohe Hashamayim seulement. Rashi souligne cela au nom des Chachamim. Il dit que quand Abraham est sorti de la maison de son père, Dieu, il était seulement Dieu du ciel. Mais à présent, que Abraham, où nous sommes des années après, Abraham a diffusé le nom de Dieu, il a enseigné, il a fait en sorte que les hommes connaissent et apprennent le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc il a rendu le Dieu du ciel et de la terre. Ça veut dire que avant que Eliezer ne rentre au service d'Abraham, personne ne connaissait le nom de Dieu. La question reste entière. Alors maintenant, la question elle revient. Comment Eliezer il a appris la Torah? N'a-t-il pas la charge et la besogne de travailler pour se mettre? Il est soumis à chaque instant travailler de produire pour son maître. Nous sommes donc dans l'obligation de dire qu'Abraham l'autorise à aménager des périodes, des moments où il aura le loisir de s'adonner à ses études. S'il en est ainsi, la question se retourne sur Abraham. Comment Abraham, il lui permet d'étudier la Torah? Abraham, il transgresse. En fait, on peut dire comme ça, le statut d'Eliezer est particulier. Certes, il est au service de son maître et doit œuvrer pour lui à chaque instant de la journée. Il doit être productif. Cependant, le travail spécifique d'Eliezer consiste à diriger la maison et les biens d'Abraham. Il est dans le rôle de direction, une fonction de responsabilité, de sorte qu'il possède une certaine autonomie et peut établir son emploi du temps en fonction de son rôle de supervision des tâches et des devoirs de chacun. L'essentiel étant que la maison soit dirigée comme il se doit. Donc Eliezer jouit ainsi d'une certaine indépendance et d'une autonomie relative. C'est là le pirouche, le sens des termes dont il était qualifié. Celui, Amoshel Bechol Asherlo, Zekan Beto, Amoshel Bechol Asherlo, celui qui dirige, il détient le pouvoir sur les biens de son maître. C'est ça l'explication. Les biens du maître font référence à la personne même d'Eliezer. Il gouverne sa propre destinée et sa propre vie. À certains moments, il est à son propre maître. Il est son propre maître à ce moment. C'est ça le pirouche. À Moshel, Bechol Asher, Asher Log, il est celui qui dirige tout ce qui appartient au maître. Lui, il dirige, donc même qui? Même lui-même, il se dirige. C'est tant qu'il parvient à aménager, il les emploie à l'étude. C'est ainsi qu'il parvient à acquérir le savoir et la connaissance. Mais pas uniquement. Il atteint une maîtrise parfaite de la chokhma, de la science. C'est là le sens vrai du terme yeshiva. On dit Eliezer, zaken ve'yoshev b'yeshiva. Il est qualifié de zaken, un ancien. C'est-à-dire, cette expression, elle doit être comprise de manière profonde. Le sens des paroles des chachamim est profond. Il faut pas rester à une compréhension superficielle. Il s'agit de dire qu'Eliezer, c'est pas uniquement que Eliezer, il a passé de nombreuses, des heures nombreuses, des jours et des nuits à acquérir le savoir. C'est pas uniquement ça. Le terme Yoshev, Yeshiva, s'installer à l'étude ne traduit pas uniquement l'assiduité, la persévérance, la constance et l'obstination qui sont nécessaires pour savoir la Torah, pour connaître la Torah. Mais ici, il est fait mention d'une autre dimension de l'étude et des efforts qui sont essentiels et indispensables. Il s'agit de s'installer dans le savoir, de s'immerger dans la compréhension totale du sujet étudié, d'en atteindre les raisons et d'en comprendre les nuances. Cette facette de l'étude et de la véritable étude est ce qui est qualifié la sévara, savoir donner le ta'am à mitzvot. Le ta'am, la raison des choses. La raison, le goût des choses. De la même manière que le goût, c'est l'essence même de l'aliment que l'on mange. C'est ça ce qui le définit. La même chose, le ta'am à mitzvot. Le ta'am, la svara. Savoir raisonner et comprendre, c'est donner le goût de la réalité de la chose qu'on étudie. C'est là le labeur de l'étude. C'est ça le labeur, ama la Torah, c'est ça. L'effort à fournir pour atteindre la compréhension. C'est la peine investie pour faire jaillir la lumière. La Torah contient en elle la lumière. Donc comment la faire jaillir? Par l'effort. Quand on comprend, c'est la lumière qui jaillit. Celui qui s'installe dans le domaine du savoir ne trouvera de cesse à la recherche de la connaissance que lorsqu'il aura accès à la profondeur de la raison réelle de chaque détail qu'il étudie. C'est la finesse et dans le raisonnement, la nuance qui définit parfaitement le point soulevé. C'est en atteignant ce but de la connaissance, à ce moment-là, il atteint ça, alors ça veut dire que la chokhma, elle est yoshevet, elle est assise en lui, elle s'est installée en lui. Et de même, lui-même, il est installé dans la chokhma. C'est ça le sens du mot yeshiva. C'est là la dimension d'Eliezer. Un vieux, un ancien, c'est-à-dire qu'il a l'expérience de raisonnement, de la compréhension. Comment arriver à faire en sorte que la chokhma, le savoir, il soit installé en lui. Il est installé assis dans le sens d'immerger dans la compréhension réelle de ce qui est le savoir établi. C'est ça la yeshiva. Là où la connaissance est posée. De telle sorte qu'il est lui-même le savoir. En effet, la compréhension en vrai et la maîtrise de la chose étudiée trouve sa place et s'installe en celui qui s'y adonne. Nous comprenons alors toute la profondeur du terme employé. Zaken beyoshev bishiva, bayadolé, ou mashke, mitorat rabo leharim. Il puisait et abreuvait les ordres de la Torah de son maître. C'est quoi le sens du mot puiser? Pourquoi puiser? Il fallait dire qu'il enseigne aux autres. Pourquoi puiser? C'est en termes, le mot puiser, il traduit justement cet état de fait. Il va puiser aux profondeurs du savoir et en abreuve tous ceux qui sont avides de la compréhension. La Torah de son maître signifie qu'Abraham l'a initié à cette qualité de l'étude qui fait la particularité de la Torah. C'est alors que la lumière jaillit, rayonne. Elle est limpide, la svara, elle est limpide, claire, étincelante. C'est l'excellence qui se dévoile. On peut ainsi répondre qu'Abraham n'enseigne pas à Eliezer l'ensemble de la Torah et des mitzvot, mais uniquement le domaine qui le concerne. En effet, l'esclave est soumis aux mêmes mitzvot que les femmes, comme nous l'avons dit. Ce sont tous les commandements négatifs qu'il ne faut pas transgresser et les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps. Donc mitzvot, assez shelo azman grama, comme les femmes. Comment on apprend ça? Là, pour la femme, il est dit, quand au sujet du divorce, il y a marqué que l'homme, il écrira à sa femme une feuille, qui sait faire qui tout, une feuille, un document qui acte le divorce. Bekatavla, à elle, il lui écrira à elle. On apprend de là beaucoup de dilim, entre autres, l'ishma, qu'il faut écrire pour cette femme-là. En particulier, il ne peut pas faire, il ne peut pas préparer des documents à l'avance avec les noms. Il faut qu'il écrive pour cette femme, au nom de cette femme. Et deuxièmement, de là, on apprend là à elle. Au sujet de la servante, esclave kénaanien, il est dit, « Vehouvcha lonitan la. » Elle n'a pas été affranchie. Il me parle d'une esclave, un sujet précis. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre, que de voir que dans le sujet de l'esclave et le sujet de la femme, il y a deux termes identiques. Il y a une similitude dans les termes. De cette similitude, nous allons apprendre que tous les dinim qui concernent la femme vont s'appliquer à l'esclave. C'est ce que nous appelons Xera Shava. Et de là, nous avons appris Evet Kenani Hayav Mitzvot Keisha. C'est ce que nous appelons Xera Shava. Xera Shava, la Miisha. C'est la Gemara dans Hagiga. Rav Ami dit, on ne transmet pas les enseignements de la Torah à un idolâtre. Hagiga 13. Rabbi Yohanan dit qu'un idolâtre, Oved Avodah Zara, s'il étudie la Torah, Hayav Mita, évidemment, on ne va pas le tuer, il a Mita Bideshama et Minastam. Toutefois, en ce qui concerne les sept mitzvot qu'il doit pratiquer, un goy, ben noir, il est Hayav d'appliquer sept mitzvot, alors il faut qu'il apprenne. Alors il doit il peut les apprendre. La Gemara dans Sanhedrin. Rabbi Meir rajoute qu'afilu goy alomet Torah ou comme au Kohen Gadol. Le goy, un non-juif qui étudie la Torah, il est considéré comme un Kohen Gadol. De quoi s'agit-il? Des mitzvot qui le concernent. C'est une Gemara dans Sanhedrin 59. C'est le sens que l'on peut donner à l'expression employée dans la Gemara. Il puisait de la Torah de son maître pour en abreuver les autres. Il dit de la Torah de son maître, mais pas toute la Torah de son maître. Cette réduction confirme qu'Eliezer n'apprenait pas toute la Torah. Il s'est donné qu'à une partie, à la partie qui le concerne. Et c'est cette partie-là qui le concerne, qu'il abreuvait aux autres qui sont quoi? Qui sont aussi des Abadim. Qu'est-ce qu'on peut? Ça, c'est le pirouge que donne le Zerachimshon dans ce Darouche. Alors, on peut rajouter, il est à noter que Chachamim compare Eliezer à Abraham. C'est marqué dans le Midrash. Ils se ressemblaient jusqu'à Chachamim arrive à leur trouver une ressemblance physique. En effet, dans le Passouk, quand Lavan sort à la rencontre d'Eliezer, alors Rivka, elle a couru, elle est rentrée à la maison pour annoncer, pour parler, dire qu'est-ce qui vient de se passer. Il y a un type dehors qui m'a donné, qui me parle, serviteur d'Abraham, et il m'a donné des bijoux. En effet, quand il sort, Lavan va à sa rencontre, il lui dit « Beau Beruch Hashem ». Il dit « Rentre à la maison, pourquoi tu restes dehors ?» Il appelle Beruch Hashem, il le qualifie de béni de Dieu. On nous dit le Midrash, il le prend pour Avraham, car Eliezer ressemble au maître à s'y méprendre. Rabbi Yossé Ben Dossa, il dit, ajoute, qu'Eliezer est en réalité Kenan, le fils maudit de Ham. Il est donc, lui, il est la clala. Et de par sa loyauté, sa fidélité à Avraham, dans l'application de la mission qu'il lui donne, il sort de cette malédiction pour embrasser, pour rentrer dans la bracha. C'est le Midrash Rabba, dans la, au Siman Parashash Samer. Alors, quel est le sens que nous devons donner à cette ressemblance? Lavan avait-il déjà, comment Lavan il connaît qui c'est Avraham? Il l'a jamais vu. Lavan avait-il déjà rencontré Avraham? Comment pouvait-il alors le confondre avec Eliezer? Il est évident que cette ressemblance n'est pas uniquement physique. Elle traduit, c'est vrai qu'ils se ressemblent, bataille. C'est la Torah le dit, c'est qu'il est livré Chazal, ils sont justes. Mais ce n'est pas seulement une ressemblance physique. Elle traduit cette, l'ascension exceptionnelle que va franchir, va atteindre Eliezer qui est Kenan, il est maudit, c'est un Eved. Alors il adopte et intègre et ingère et il toutes les midot d'Abraham, elles sont dans sa vie au quotidien. Il en fait sa propre nature. Eliezer, comme Abraham, ils sont qualifiés de vieux. Début de la paracha marqué, Abraham, Zaken. Et Eliezer, il dit, au sujet d'Eliezer, il dit, Zekan Beto, lui aussi, il est Zaken. Donc, ils sont identiques. Donc, nous avons dit plus haut que l'adjectif Zaken traduit la maîtrise du savoir et de la connaissance. Ils sont tous deux la référence vivante de la Chochma, qui transforme un simple individu en être d'exception. Bien évidemment, Lavan n'a jamais rencontré Avraham, mais il a entendu parler la grandeur du personnage, etc. On raconte, les gens racontent qui c'est Avraham, tout le monde est au courant, la guerre, le qui est Ur-Kasdim, etc. Et les qualités exceptionnelles de ce personnage, c'est cela qu'il aperçoit en rencontrant Eliezer. Il émane d'Eliezer un rayonnement, une aura de Kedusha. Toutefois, si nous disons qu'Eliezer n'a étudié que la Torah qui le concerne, alors, comme nous avons dit, il a étudié que les dinim qui concernent les Abadim. Alors, pourquoi il est qualifié de vieux? Comment on peut le qualifier de vieux? Vieux, ça veut dire qu'il possède toute la Torah de son maître. Il ressemble au maître. Alors, il y a ici ajouter une dimension particulière dans l'étude approfondie, celle qui mène à la compréhension réelle du sens et des raisons de chaque détail qui compose l'immensité de l'océan du savoir. La Torah est infinie, c'est un océan. Il s'agit du fait que chacun des petits détails, des points spécifiques étudiés, contient en lui l'ensemble de la Torah. Quand on étudie, on s'intéresse à comprendre un détail de tel ou tel sujet. C'est ça l'étude. en persévérant avec assiduité, on accumule le savoir. Mais pas uniquement. Il ne s'agit pas juste de posséder un savoir encyclopédique, mais bien plus. En effet, le point de détail étudié profondément n'est pas juste une goutte d'eau de l'immense océan de la Chochma. Sache que cette petite goutte d'eau est elle-même l'océan infini du savoir. De sorte que bien qu'Eliezer ne s'est adonné qu'à une partie de la Torah, il le fait de telle façon que c'est tout le savoir qui s'ouvre devant lui. C'est cette dimension de l'étude qui est qualifiée lumière du monde. C'est là la démarche de celui qui a soif de comprendre. Cette avidité le mènera à gravir toutes les étapes jusqu'à que s'ouvre à lui l'accès du Pardès, le fameux verger de la connaissance, comme il est marqué dans la Gemara, dans Hagiga. Toutes les dimensions du savoir. C'est quoi Pardès? Il y a quatre dimensions. Pshat, le sens littéral, l'allusion, la déduction, drash, et le sod, et le secret. La compréhension, c'est quoi? Chaque chose est là, même tête. Comme la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu, même tête, akol alakha ve alakha, même tête, panim ta'o, même tête, panim tamé. Les 49 facettes de chaque élément. 49 facettes à droite, 49 facettes à gauche. Dans le moutard et le assour, la même chose. Et en plus, dans tous les niveaux de la connaissance, il y a Shirim Panim la Torah. Ils sont tous imbriqués les uns dans les autres, unis, emboîtés. Et les uns aux autres, ils illuminent de mille éclats. C'est ça ce que Eliezer a atteint. C'est pour cela que Eliezer, il est appelé Zekan Beto, Amoshel Bechol Asherlo. Et c'est ça le vrai sens de Zaken Veyoshev Bishiva. Il est installé dans la Yeshiva. Toute chose importante mérite qu'on s'installe dans ce que, quand on va, il ne s'agit pas uniquement de consacrer un temps énorme, même si on ne consacre qu'une heure, deux heures, mais le temps consacré, on s'installe dans le sujet étudié, on s'installe, c'est-à-dire qu'on se détache de tout, il n'y a plus autre chose. On peut comparer ça à quelqu'un qui gère un avocat, un expert comptable, par exemple, qui a des dossiers. Alors, il a un premier dossier. Monsieur Réhouven, j'ai un dossier. Alors, le client est devant moi, je m'occupe de son dossier. Alors, il y a des soucis, il y a des problèmes à régler, etc. Donc, j'ai ma tête prise de tous les soucis, tous les problèmes que je dois régler dans le dossier de Réhouven. Puis Réhouven s'en va, et juste après, arrive Shimon. Lui aussi, il a un dossier. Je ne peux pas, en m'occupant du dossier de Shimon, avoir en tête le dossier et les soucis que j'ai à régler pour Réhouven. Donc, je ferme le dossier Réhouven et je m'occupe du dossier de Shimon. Et c'est ça le pirouche yeshiva. S'installer dans le dossier. Quel dossier? Le dossier de l'étude. Alors, j'ai une heure de temps à consacrer. J'ai deux heures de temps à consacrer. Chaque mitzvah que je fais, c'est un dossier. J'ai la tefila à faire. Alors, je me consacre à la tefila. Il n'y a plus rien d'autre. J'ai fermé tous les autres dossiers et ma tête est entièrement, mon être est entièrement immergé dans la tefila. Ma tête est entièrement immergée dans le sujet que j'étudie des Mishnah, je suis dans la Mishnah. J'étudie la paracha, je suis dans la paracha. J'étudie Mbrachot, je suis dans Mbrachot. Shabbat, je suis dans Shabbat. Mnachot, je suis dans Mnachot. Et entièrement, toutes mes facultés, je me plonge dans l'océan du savoir. C'est le sens de Zaken, Veyoshev Bishiva. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on va véritablement être le détenteur, le possesseur, posséder la Chochma, arriver à comprendre le sens profond de chaque chose. Avoir soif de comprendre, c'est là le secret de la réussite. Yiratzon, que cette étude soit portée au bénéfice de tous ceux qui sont en attente de brachot et de bénédiction. Lilou Nishmata, Shero Hamad Zikulet Baniten, Mordechai Bariza, Ben Yaakov Barzoar Itrout, Gabriel Eliaou Bar Penina, Yvette Halo Bat Juli, Zichonam Lechaye Olam, pour la réfouacher les malades, tous les malades. Nissan, Tzvi, Bar, Dvora, Yoshua, Yosef, Bar, Esther, Sarah, Rachel, Bati, Yehudit, Esther, Yehudit, Eugénie, Michel, Bat, Rachel, Haya, Mouchka, Esther, Bat, Tzipora, Yossine, Naomi, Bat, Yvette, Esther, Haïm, Bar, Simi, Amram, Bar, Yakout, Eliaou, Bar, Fricha, David, Bar, Saada, Tal, Zohar, Viviane, Bat, Naomi, Shimon, Bar, Joséphine, Yirmiyahu, Bar, Esther, Saada, Bat, Mesoudi, Nathalie Shoshana Bat, Nicole Colette Lala, Asher Mesoud Ben Mesouda, Régis Shlomo Bar Yola, Eliane, Eliaou Bar Levana, Shalom Bar Simi, Bracha Bat Haya Figel, Haim Bar Shlomit, Anna El Rafalem, Anna El Rafalem, que Dieu vous leur octroie la santé, la joie et le bonheur, que tous ceux qui sont en attente d'une Yeshua, de fonder un foyer, d'avoir des enfants, d'avoir une bonne parnassa, d'être sauvé de toutes sortes d'oppressions ou de problèmes juridiques et autres, à que je vous roule, les exauce leurs souhaits et que toutes les brachot se réalisent par le mérite de, du Rav, Rabbeinu Shimshon Haïm Nahmani. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.